Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Quand on commence l'écriture d'un épisode de La Loupe, on cherche des moyens pour vous impliquer, vous, auditeurs, dans l'histoire du jour. Et c'est donc le cas dans ce podcast. Je vais vous demander de lister toutes les femmes politiques françaises d'envergure nationale qui occupent des fonctions depuis au moins 20 ans. Je pense à des femmes élues à un mandat local, national ou européen. Des femmes ministres, des chefs de parti, des porte-paroles, des femmes capables de porter la voix de leur famille politique depuis les années 2000 et susceptibles d'être invitées plusieurs fois par an à faire le tour des médias. Je suis convaincue que vous n'avez qu'une poignée de noms en tête. Martine Aubry, Christiane Taubira ou Ségolène Royal pour la gauche, Valérie Pécresse, Roselyne Bachelot, Marine Le Pen pour la droite, sans oublier bien sûr Rachida Dati. La nouvelle ministre de la Culture a souvent été attaquée pour son caractère et ses phrases choc. Ses sorties médiatiques amusent autant qu'elles effraient ses adversaires politiques. C'est simple, elle passe souvent pour celle qui se fait plus facilement des ennemis que des amis. Et pourtant, quelques semaines après sa nomination, Rachida Dati semble réussir son intégration en Macronie. À La Loupe, on s'est dit que ça méritait bien un épisode. Aujourd'hui, on examine comment le caméléon Dati a pris ses quartiers rue de Valois. Invité de journalistes politiques aguerris, ça n'était pas de trop pour examiner le personnage de Rachida Dati. J'ai donc fait appel à Éric Mandonnet et Paul Chollet. Bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Charlotte.
Si vous le voulez bien, on va démarrer cet épisode par le début. Pourquoi Emmanuel Macron est-il allé chercher Rachida Dati, une figure du Parti Les Républicains ?
On sait depuis 2017 qu'Emmanuel Macron aime débaucher des grandes figures d'autres partis politiques et il aime particulièrement débaucher à droite. On a vu ça dès 2017 lorsqu'il recrute Gérald Darmanin, Bruno Le Maire. Et c'est vrai que le débauchage de Rachida Dati s'inscrit vraiment dans cette stratégie que Emmanuel Macron appelle de dépassement, que ses adversaires appellent de débauchage. Et dans le cas de Rachida Dati, qui est un peu spécifique, c'est que Emmanuel Macron recrute une star. Il a dit en privé qu'il recrutait une marque parce que Rachida Dati, elle dépasse l'appartenance à tel ou tel parti politique. C'est une star de la politique. Il y en a assez peu en France. Et donc, c'est ça aussi que vient chercher Emmanuel Macron.
Oui, c'est presque un réflexe ou une attitude sarkozyste en l'espèce chez Emmanuel Macron, c'est-à-dire c'est la quête de la star plus que la quête de la cohérence. Et on a déjà vu dans pas mal de précédents et de constructions gouvernementales à quel point Emmanuel Macron aimait faire des coups, quitte à ce que la cohérence idéologique ne soit pas en première ligne. Exemple, évidemment, à l'éducation nationale. Il fallait penser quand même remplacer Blanquer par Pap Ndiaye. Macron, c'est un joueur aussi. Il remplace une ministre très techno, plutôt issue de la gauche, c'est Rima Abdul-Malak, par cette figure très identifiée, plutôt marquée à droite, évidemment, c'est Rachida Dati. Donc, évidemment, ça plaît à Emmanuel Macron, même si on l'a remarqué dès le début, c'est un peu moins la tasse de thé du Premier ministre Gabriel Attal.
Oui, ça, on en a parlé la semaine dernière dans un épisode consacré aux tensions entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Au départ, le Premier ministre n'était pas forcément très motivé à l'idée de voir une forte tête comme Rachida Dati intégrer son équipe gouvernementale.
Il se disait que des fortes têtes, il en avait déjà assez. Lui, le tout jeune Premier ministre, il avait déjà le maire Darmanin et d'autres. Et voilà qu'il a découvert en cours de constitution du gouvernement que Rachida Dati est dans le casting. Il ne sait pas et Emmanuel Macron lui demande « Alors Rachida Dati, est-ce que tu la verrais plutôt à l'éducation ou à la culture ?» Et Gabriel Attal, il préfère commencer par le commencement. Déjà, la culture pour Rachida Dati, ce serait pas si mal. Et on verra ensuite ce qu'elle devient et comment elle se fond dans le moule macroniste. Mais Rachida Dati, elle a l'intelligence des situations. Elle sait qu'elle n'est pas en terrain conquis. En Macronie. Et donc, elle va donner des gages en arrivant rue de Valois.
Et donc, comment Rachida Dati prouve sa loyauté envers le Premier ministre ?
Bien, son directeur de cabinet, déjà, et c'est un poste essentiel, non seulement pour la ministre, mais aussi pour le fonctionnement gouvernemental. C'est un techno très méconnu du grand public, mais qui ne peut plus être méconnu des lecteurs de l'Express après le formidable portrait qu'Émilie Lanaise lui a dédié, un portrait que l'on trouve toujours sur le site de l'Express. Il s'appelle Gaëtan Bruel, il a le même âge que Gabriel Attal. Gabriel Attal l'a rencontré aux États-Unis, car avant d'arriver à Paris, Gaëtan Bruel était conseiller culturel à l'ambassade de New York, et tous ceux qui ont travaillé avec lui en font son éloge. Grand bosseur, grand réseau, et donc vrai atout pour Rachida Dati, en même temps qu'un gage donné à Matignon. Et c'est un moyen, évidemment, pour le Premier ministre de garder un œil sur ce qui se passe rue de Valois.
Pour réussir son entrée en Macronie, Rachida Dati a donc dû soigner son entourage. Mais est-ce qu'elle arrive à se faire respecter de ses collègues ministres ?
Mais déjà, elle les connaît. Rachida Dati, ce n'est pas une novice en politique. Elle a maintenant plus de 20 ans de politique derrière elle. Et elle vient de la droite. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui est composé de nombreux ministres issus de la droite, à commencer par Darmanin. Alors avec Darmanin, ça a été compliqué pendant quelques années. Ça va mieux entre eux. Plusieurs ministres les ont observés en train de discuter, en train de palabrer lors des conseils ministériels. Ensuite, c'est quelqu'un qui entretient de très bonnes relations avec Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. Il y a aussi pas mal de ministres qui la regardent aussi avec les yeux de novice en politique. En fait, il observe un peu agir en conseil des ministres, il observe se comporter lors des questions au gouvernement et eux-mêmes sont un peu impressionnés par l'aura de Rachida Dati. Et puis après, Rachida Dati, c'est quelqu'un qui sait aussi se réconcilier avec des ministres ou avec des responsables politiques avec qui elle a eu maille à partir. Et c'est le cas, par exemple, de Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères. Il avait lourdement mis en cause Rachida Dati lors des élections municipales de 2020. Et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien entre eux. On les a vus ricaner et pas mal discuter ensemble lors d'un voyage officiel d'Emmanuel Macron en Inde. Donc, c'est quelqu'un qui, par ses facilités sociales, arrive un peu à s'accoutumer à ce nouveau milieu.
Et qu'en est-il avec les parlementaires de la majorité ?
C'est important de les connaître, les parlementaires de la majorité, car sous ce quinquennat, on est en majorité relative. Donc, quand on est en majorité absolue, les ministres font passer leurs projets de loi un peu comme ils le veulent. Et c'est pas fondamental de bien connaître les parlementaires de la majorité comme ceux des oppositions. Là, on est sous majorité relative, chaque voix compte, donc c'est assez important pour les ministres de connaître les parlementaires de la majorité. Début mars, elle a rencontré le président du groupe Renaissance à l'Assemblée, Sylvain Maillard. Et Sylvain Maillard lui a un peu présenté l'écosystème macroniste, il lui a expliqué comment fonctionnait l'Assemblée nationale sous majorité relative, elle qui, à l'époque de Nicolas Sarkozy, ne connaissait que la majorité absolue, et ça a été pour elle l'occasion d'apprendre un peu ce groupe qu'elle connaît peu et aussi ce fonctionnement de l'Assemblée qu'elle doit aussi apprendre à maîtriser pour faire passer ses projets de loi.
Éric Piolle, on sait que Rachida Dati est réputée pour sa liberté de ton. Est-ce que ça passe bien auprès de sa nouvelle famille politique ?
Oui, ça passe plutôt bien, d'abord parce qu'elle sait y faire. Elle sait se montrer plus fine que ce qu'on pourrait dire d'elle. Il faut dire les choses aussi, elle fout la trouille. Elle fout la trouille aux autres au sein de la Macronie parce que tous ont observé comment elle pouvait dézinguer ses petits camarades de droite. Et avec les macronistes, elle sait que son bagout est un atout parce qu'ils la regardent un peu comme une bête curieuse, quelqu'un qui n'est pas comme eux. Il peut y avoir des accrochages. Mais Rachida Dati, sans accrochage, ça n'existe pas. Rachida Dati, elle peut insulter la terre entière. Elle l'a fait très récemment encore, de l'Élysée à Matignon en passant par Bercy, parce qu'on avait osé, comme on a osé le faire pour tous les autres membres du gouvernement, on avait osé exiger d'elle un rabot budgétaire. Et dans ce cas-là, Rachida Dati n'a pas la langue dans sa poche.
En quelques semaines, Rachida Dati est donc parvenue à s'intégrer au sein d'une famille politique qu'elle a longtemps fustigée comme un vrai caméléon, une position qui semble trancher drastiquement avec le tempérament abrasif qui a permis son ascension.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Évidemment, Charlotte, j'ai rapporté là avec moi la fameuse Bible du service politique. Mmh. Et forcément, elle contient plusieurs passages sur cette Rachida Dati et toutes les petites phrases assassines. Mais il y a surtout le moment de son entrée en politique à une époque où justement, on attendait d'elle qu'elle ne rentre pas dans le moule.
Qu'est-ce que tu entends par là ?
Eh bien, au début de sa carrière politique, l'homme qui va lancer Rachida Dati dans le grand bain, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, dans sa période d'ascension vers l'Élysée, disons la période de 2002 à 2007. Et donc, c'est à cette époque-là, dans les années qui suivent, que Rachida Dati acquiert une valeur très forte auprès du futur président, parce que Rachida Dati est une sarkozyste qui ne ressemble pas aux autres sarkozystes.
Et donc, où est-ce que tu ouvres cette fameuse Bible du service politique ?
Je suis là dans la Bible au début des années 2000. Nicolas Sarkozy a subi un échec qui peut lui être fatal aux européennes, 12,5%. Et il sait que s'il veut devenir président, Nicolas Sarkozy doit être plus que Nicolas Sarkozy. Et c'est là qu'on voit émerger de nouvelles figures, des figures qui sont très différentes, mais c'est le but. Et à ce moment-là, ce qui propulse Rachida Dati, c'est sa singularité.
Pourtant, Eric, en préparant ce podcast, j'ai retrouvé un article de L'Express qui date de 2008 et qui s'appelle « La face cachée de Rachida Dati » et il donne déjà un portrait assez nuancé de l'actuel ministre de la Culture.
En quelques années, la jeune chalonnaise de la cité du Stade se construit un carnet d'adresses parisiens digne d'un énarque bien né.
Rachida Dati, la jeune et pétillante étudiante, ne sait pas se servir des couverts à poissons lors de ses premiers déjeuners dans le monde. Qu'importe, elle s'adapte vite.
Elle écrit à tous les décideurs, capitaines d'industrie, ministres, hauts fonctionnaires ou même chanteurs et journalistes.
Elle sait que le destin se tricote grâce aux rencontres, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Jamais plus elle ne laissera la tradition ou le hasard abîmer la tapisserie qu'elle tisse patiemment.
À la lecture de ce portrait, Eric, on a l'impression qu'en fait, Rachida Dati a toujours joué les caméléons.
Absolument. L'ascension de Rachida Dati, c'est une histoire très balzacienne parce que c'est une fille d'immigrés maghrébins, elle est la deuxième d'une famille de 12 enfants. Les enfants qui ont été élevés par un père très dur, obsédé par la perfection, la réussite de ses enfants. Et elle, on l'a dit tout à l'heure, elle a une énergie débordante, elle a une ambition dévorante. Et évidemment, par son profil, elle tranche avec la scène politique de l'époque, avec ces sarkozystes trop propres sur eux. Elle, c'est une femme, elle est jeune, elle est issue de l'immigration. Et d'ailleurs, on lui fera payer cher par moment cette singularité.
Rachida Dati, on a tendance à l'oublier avec le temps, n'a pas été ministre de Nicolas Sarkozy pendant très longtemps. Elle a été ministre de Nicolas Sarkozy pendant près de 2 ans. Son passage au ministère de la Justice, ça a été marqué par une série de polémiques qui avaient davantage attrait à son comportement de ministre. On a beaucoup raillé son goût pour les vêtements de luxe. Alors, elle-même aussi a un peu joué à ce jeu-là, notamment lorsqu'elle avait été photographiée en une de Paris Match il y a plus de 15 ans avec des vêtements Dior. Et c'est vrai que Rachida Dati, parfois, n'a pas été vraiment prise au sérieux lors de son passage au ministère de la Justice. Peut-être qu'il y avait aussi un peu de mépris social qui sous-tendait c'est les ricanements qui accompagnaient son passage au gouvernement. Mais il faut souligner qu'on n'arrive jamais là où on est sans un minimum d'entre-gens, et particulièrement dans le milieu politique, et une capacité à s'intégrer dans des cercles de pouvoir qui sont très hermétiques et qui acceptent peu des gens qui ne sont pas issus du sérail, ce qui est le cas de Rachida Dati. Et en ce sens, oui, elle a toujours eu un côté caméléon. C'est juste qu'il a souvent été pas mal sous-estimé et masqué derrière son côté un peu grande gueule.
Cette ambivalence entre sa personnalité abrasive et sa capacité d'adaptation, est-ce qu'elle suffit à expliquer sa longévité ?
Ça l'explique en partie parce qu'en fait, à chacun sa vision de Rachida Dati. Le grand public va souvent résumer Rachida Dati à ses punchlines, à ses interventions assez musclées sur les plateaux télévisés. D'ailleurs, elle-même, elle n'est pas naïve, elle en joue. Elle joue de ce personnage, elle alimente ce personnage. Et en même temps, à l'intérieur de ce milieu politique-là, elle sait manier sa barque. Elle a, par exemple, jamais négligé sa relation avec le couple Macron, particulièrement avec Brigitte Macron, dont elle s'est rapprochée au fil des années. Et donc, c'est Rachida Dati le caméléon, c'est-à-dire que le grand public va la voir comme une grande gueule qui se fout un peu de tout, tandis que les initiés savent à quel point elle sait vivre et nager dans ces milieux du pouvoir. Ce sont des qualités qui sont indispensables pour être nommée au gouvernement. Elle l'est. Maintenant, il faut autre chose pour réussir rue de Valois.
Comment ça ?
Elle est déterminée à devenir une figure de la Macronie, mais sans non plus sacrifier ses proches et son ancienne famille politique, les Républicains. Et c'est peut-être là que son côté caméléon se voit le plus.
Paul, Éric, il y a une séquence qui a marqué beaucoup de gens. Elle date de juin 2021, un peu moins d'un an avant la dernière présidentielle. Et Rachida Dati est invitée sur France Inter.
En marche, c'est quoi ? C'est des traites de gauche, des traites de droite.
En rejoignant la majorité présidentielle, est-ce que Rachida Dati est elle aussi devenue une traître de droite ?
Alors en tout cas, elle s'efforce surtout de ne pas avoir cette image-là. Il y en a un qui a bien envie de lui coller cette étiquette, c'est Éric Ciotti. Mmh. Éric Ciotti, dès l'annonce du ralliement de Rachida Dati à la Macronie, a annoncé son exclusion du Parti des Républicains. Maintenant, est-ce qu'elle, elle a rompu avec cette famille politique ? Non, et bien au contraire.
Alors, avec quel membre des Républicains entretient-elle encore un lien fort ?
Rachida Dati est maire du 7e arrondissement de Paris. Elle a été candidate Les Républicains à la mairie de Paris en 2020 et jusqu'à peu présidait le principal groupe d'opposition au Conseil de Paris. Et Rachida Dati a donc nourri des relations très fortes avec des élus parisiens des Républicains. Elle continue à nourrir d'importantes relations avec eux, d'autant plus que la plupart d'entre eux continuent de la voir comme la candidate naturelle de l'opposition à Paris en 2026.
Tu parles de la mairie de Paris. Justement, lors de sa nomination au gouvernement, la rumeur d'un accord entre elle et Emmanuel Macron pour 2026 a très vite circulé.
Oui, ça c'est vrai, c'était fait pour, d'ailleurs. Et c'est pourquoi, lorsqu'on dit la rumeur d'un accord a circulé, l'important, c'est pas de savoir s'il y a eu accord ou pas. Ça n'existe pas en politique, les accords. Aucun notaire n'a été convoqué. C'est qu'il y a la rumeur. Et la rumeur suffit à déstabiliser, on l'a vu, la droite parisienne. Et les deux partis ont évidemment beau jeu d'affirmer qu'il n'y a pas d'accord. Cela dit, ce n'est pas parce que Rachida Dati entre au gouvernement que tout est résolu. Les macronistes parisiens voudraient une primaire fermée. Elle aimerait donc mieux une candidature unique, une candidature de rassemblement. Donc, pour le moment, l'accord n'est qu'une rumeur.
Pas d'accord, donc, mais ça ne veut pas dire non plus qu'elle envisage de jeter l'éponge.
Ah non, bien au contraire. Rachida Dati a annoncé, quelques jours après sa nomination, sur RTL, qu'elle comptait bien être candidate à la mairie de Paris. C'est son ambition.
Vous serez candidate
d'ailleurs,
à la mairie de Paris ?
C'est dans 3 ans, bien sûr. Je l'ai toujours dit. Enfin, je suis élue parisienne, je l'ai été en 2020. Eh ben on va recommencer.
Pour elle, le ministère de la Culture est un marchepied en vue de ses ambitions parisiennes. Mmh. Et ses ambitions parisiennes sont confortées par un récent sondage qui a été publié par la Tribune dimanche. Et ce récent sondage, que dit-il ? Il lui accorde plus de 30% des voix au premier tour et n'en accorde que 18% à Yannick Jadot, l'écologiste, et que 14% à Anne Hidalgo, la maire sortante. Donc, elle fait quasiment plus du double des voix qui sont promises à la maire de Paris sortante. Donc, pour l'instant, elle est rue de Valois. Elle exerce son office au ministère de la Culture. Elle veut faire ses preuves et obtenir des résultats. Mais clairement, dans sa tête, son objectif, c'est la mairie de Paris. C'est 2026. Et c'est ça l'échéance la plus importante pour elle.
Et quelle est sa stratégie pour Paris 2026 ?
Sa stratégie, elle a été résumée en une phrase qu'elle a confiée à un élu d'opposition à Anne Hidalgo. Elle a dit « Moi, je suis un adepte de la méthode Sarko. On se rassemble au premier tour, on fait un gros score et on crée la dynamique pour le second. » Voilà pour la version théorique. Maintenant, dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que Rachida Dati veut incarner une candidature de rassemblement dès le premier tour, rassemblant d'un côté les macronistes et d'un côté la droite, les républicains. Et c'est pour ça qu'elle est entrée au gouvernement, pour s'arrimer au vaisseau macroniste, tout en contraignant la droite à la soutenir en 2026, en présupposant que la droite ne sera pas assez forte pour présenter un candidat ou une candidate face à elle. C'est ça sa stratégie, c'est « vous n'avez pas d'autre choix que de me soutenir moi, moi qui suis la seule figure d'opposition à Anne Hidalgo qui soit identifiée par les Parisiens ».
Tu l'as dit, pour réussir ce rassemblement, il faut que les Républicains refusent d'envoyer un candidat face à elle. Pourtant, Éric Ciotti a déjà prévenu qu'il le ferait.
Oui, il sait très bien qu'aujourd'hui la droite est bien faible pour opposer une candidature de poids à celle de Rachida Dati. Mais il n'a pas d'autre choix que de dire ça au vu de sa stratégie nationale. Éric Ciotti dit en permanence que la droite a vocation à incarner l'alternance en 2027 et à succéder à Emmanuel Macron. Dès lors que cette stratégie est arrêtée par Éric Ciotti, il n'a pas d'autre choix que d'opposer un candidat ou une candidate face à Rachida Dati, candidate macroniste à Paris en 2026, un an avant l'élection présidentielle. Donc il y a aussi une part un peu d'artifice dans cette déclaration d'Éric Ciotti. Mais en tout cas, Rachida Dati n'a pas renoncé à l'idée d'être candidate de la droite et de la Macronie. D'ailleurs, elle donne des gages aussi à sa nouvelle famille politique. En témoigne par exemple sa présence au meeting des européennes du parti Renaissance à Lille, c'était début mars, où on l'a vu debout sur sa chaise pour applaudir l'arrivée de Valérie Ayer en tout début de meeting.
Paul, Éric, pour le moment Rachida Dati n'a pas fait de faux pas majeurs, vous l'avez dit, mais 2026 et les élections municipales, c'est encore loin.
Absolument, nous sommes en avril 2024 et donc 2026, ce n'est pas demain. Emmanuel Macron le disait récemment, il y a quelques mois, il disait à une personnalité politique, j'ai fait une erreur, je n'ai pas écouté le conseil de Bertrand Delanoë qui me disait ne jamais envoyer au municipal à Paris un ministre. Parce que être ministre, c'est s'exposer à tous les déboires qui attendent une équipe gouvernementale. 2 années, c'est très long lorsqu'on est au gouvernement parce qu'il y a des crises. Donc, il faut rester, non pas comme Rachida Dati dans les meetings macronistes, debout sur la chaise, il faut rester tranquillement assis et attendre les municipales qui sont dans 2 ans.
Paul Chollet et Éric Mandonnet, journalistes au service politique de l'Express. Merci à tous les deux pour ce portrait du caméléon Rachida Dati.
Merci.
Merci.
Chers auditeurs, je vous invite à vous abonner sur le site de l'Express. Le premier mois de souscription ne coûte qu'un euro en ce moment. Vous pourrez ainsi découvrir toutes les enquêtes et tous les récits de Paul, Éric et leurs collègues. Et bien sûr, pour ne rater aucun épisode de La Loupe, n'oubliez pas de nous suivre sur votre plateforme d'écoute habituelle, Spotify, Deezer ou Apple Podcast par exemple. Vous pouvez aussi nous écrire. L'adresse de contact, c'est toujours la même, laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.